Oh, mesdames et messieurs, il est là, Christian Page.
Salut Bernard.
L'enquêteur du paranormal. Et honnêtement, ta première histoire, là, tu m'en as déjà parlé. Écoute, j'ai hâte que tu me racontes ce qui serait l'explication, mais voilà. Commence d'abord par nous remettre en contexte.
En fait, c'est une des plus grandes, un mystère soviétique hein, qui se passe à l'époque de l'ancienne Union soviétique.
Oui.
Et c'est un mystère qui perdure depuis, hein, qui a alimenté toutes sortes de controverses. Notre événement se passe en 1959, dans la nuit du 1er au 2 février 1959. On a un groupe de 9 randonneurs qui ont quitté quelques jours plus tôt Sverdlovsk, hein, aujourd'hui c'est la ville d'Ekaterinbourg. Ils ont fait un trajet de 300 km pour se rendre dans l'Oural. On est dans une espèce d'expédition de trekking extrême, là, tu vois le genre.
Mm-hmm.
Et là, donc, dans cette nuit du 1er au 2 février, ils se trouvent sur une montagne qui s'appelle le mont Kolatchal, qui veut dire la montagne des morts ou la montagne morte. C'est une montagne qui est peu propice aux avalanches, hein, une pente d'à peu près 23 degrés. Et tu vas comprendre pourquoi j'insiste mm-hmm. sur cet élément-là.
Mm-hmm.
Donc, nos jeunes se décident d'installer leur campement sur le flanc de la colline. Ils sont à peu près à 2 km d'un boisé qui est en contrebas. Donc, on creuse un peu, on installe la tente, et voilà, quelque part au milieu de la nuit, les jeunes vont être surpris par quelque chose.
Oui.
Ils vont déchirer la tente, ils vont fuir comme ils sont dans leur sac de couchage, tu comprendras. Ils ont simplement leurs chaussettes, leurs pantalons, un petit chemisier. Ils sortent à l'extérieur, ils ventent, il fait une température de moins 35 degrés.
Oui.
Et ils vont fuir dans tous les sens, en particulier vers le bas de la colline. Et éventuellement, on sait qu'ils se sont réunis au pied de la colline. Trois d'entre eux vont tenter de retourner à la tente, deux vont mourir sur place et les quatre autres vont s'enfoncer dans la forêt. Tous vont mourir d'hypothermie.
Tous, hein, y a aucun survivant.
Tous, aucun survivant. Et bien sûr, cette histoire-là va alimenter toutes sortes de controverses. On va charger des enquêteurs du KGB, un ancien policier du service des enquêtes criminelles, de faire la lumière sur cette histoire-là. La seule chose pour lesquelles ils ont une certitude, c'est que la tente a été déchirée de l'intérieur. Visiblement, les jeunes ont été surpris. Il n'y a pas eu d'avalanche parce que y a des objets autour de la tente qui auraient dû être emportés par l'avalanche, ce qui n'est pas le cas. Et donc, la conclusion de l'enquête de l'époque, et ça ouvre la voie à toutes sortes d'interprétations. Il dit, ces jeunes-là sont morts d'hypothermie, mais ils ont visiblement cédé à une force irrésistible inconnue.
Ouais.
Alors donc, depuis 1959, on a imaginé toutes sortes de choses. Est-ce qu'un d'entre eux serait devenu fou puis aurait voulu essayer d'assassiner les autres? Est-ce que ces gens-là auraient été victimes d'une expérience militaire qui aurait mal tourné? Et certains ont été jusqu'à prétendre que peut-être ils avaient été attaqués par l'Almastie, hein, l'abominable homme des neiges de la Russie, ou encore peut-être même par des extraterrestres.
Oh boy, OK.
Donc tu vois, ça va loin, là.
Ouais, ouais.
Et tout ce qu'on a essayé de trouver, il y a toujours un maillon faible. Toutes les hypothèses que l'on propose, il y a un maillon faible. Et là, voilà qu'il y a quelques jours, dans le Nature Communication, et ça, j'adore ça, Bernard, parce que c'est la science au service de l'énigme.
Oui.
Donc, on a un groupe de chercheurs, c'est le laboratoire de simulation des avalanches de l'École Polytechnique de Lausanne, en Suisse. Donc, ces gens-là se sont réunis, ont décidé de se repencher sur cette affaire-là.
De Lausanne ou de Zurich?
En fait, c'est le centre de polytechnique de Lausanne, excuse-moi.
C'est Lausanne? C'est Lausanne? Oui,
donc,
okay,
ces
parfait.
Gens-là se sont réunis et ils ont décidé de se repencher sur l'affaire Dyatlov. Hein. Et ce qu'ils ont fait, pendant 10 mois, ils ont travaillé à toutes sortes de simulations. Écoute, ils ont même fait appel aux modélistes de Walt Disney qui ont fait le mouvement des neiges pour le film La Reine des Neiges.
Okay.
Donc, tu vois tout le travail qui a été fait. Et leur conclusion,
oui.
C'est à la fois l'avalanche, mais pas l'avalanche. En fait, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en creusant une espèce de lit pour asseoir leur campement, ces jeunes-là ont affaibli une couche de neige qui était tout près de la tente. Ce n'est donc pas une avalanche, ce n'est pas une grande coulée de neige qui est tombée sur la tente, mais simplement un bloc de neige juste au-dessus. Ils ont affaibli, comme je t'ai mentionné, le manteau de neige. Et là, il y a un bloc de neige à peu près de la taille d'une petite voiture, là, un 4x4 peut-être, qui est tombé sur la tente. C'est ce qui les a surpris. Et c'est là qu'ils ont déchiré la tente pour sortir, et comme ils ne voyaient rien dans cette obscurité avec une température de moins 35, ils ont cru qu'une avalanche était sur le point de se produire.
Et là, ils ont fui. Ah, ce serait ça la panique.
Voilà, et là, ils ont fui en se disant, on est tous vivants, mais s'il y a de la neige qui s'est écoulée sur la tente, le reste va venir. Mais le reste n'est jamais venu. C'est eux qui avaient affaibli légèrement le manteau de neige juste au-dessus de la tente. Et c'est ce qui explique ce qui s'est produit, pourquoi la tente s'est affaissée, sans nécessairement entraîner dans son mouvement des objets qui étaient autour de la tente, notamment des pics qu'on se servait pour faire du ski, là, parce que ces gens-là en étaient à faire du ski de randonnée un peu. Là. Donc, les piquets de ski étaient toujours en place. Et c'était un des gros arguments des détracteurs de cette hypothèse de l'avalanche, de dire, on est dans une pente qui était peu propice aux avalanches, donc 23 degrés. Les bâtons de ski sont restés en place, donc une grande coulée de neige aurait tout entraîné dans son mouvement, ce qui n'est pas le cas. Et donc, ces jeunes-là, en quittant la tente, ils ont fui, mais tu comprendras qu'à moins 35 degrés,
ils ont signé leur arrêt de mort.
Ils ont cru qu'une avalanche plus importante allait tout emporter le flanc de la montagne, ce qui ne s'est jamais produit. Et donc
Et toi qui as étudié ça, là, ça te semble bien comme hypothèse?
Absolument.
Oui, tu trouves que ça a du sens, oui?
Moi, en conférence, je présentais toutes les hypothèses de cette affaire-là, d'Yatla. Je me suis beaucoup intéressé à ça. J'ai eu accès aux documents originaux qui avaient été rédigés par le KGB. Des amis russes m'ont fait quelques traductions de certains passages. J'ai parlé avec des gens. Il existe à Ekaterinbourg aujourd'hui une espèce de fondation Dyatlov. Hein, Dyatlov, c'était le leader du groupe, Igor Dyatlov, un jeune homme de 23 ans. Il existe une fondation, Dyatlov, pour entretenir le souvenir de ces jeunes.
Là, j'ai des auditeurs qui me disent, oui, mais tu parles pas des le ventre ouvert, les blessures inexpliquées.
Ouais, c'est ça. Donc, dans le cas de nos jeunes, c'est vrai qu'il y en a 5 qui ne portaient aucune blessure. Hein. Imaginons notre groupe de 9 qui court, qui descendent la montagne. Donc, à ce moment-là, on sait que 2 d'entre eux sont décédés sur place. Ils ont été retrouvés d'ailleurs. Les amateurs ont dit, ah oui, ils ont été retrouvés en sous-vêtements. Oui, mais en sous-vêtements parce que une fois qu'ils ont été décédés, tu comprends que les autres ont pris leurs vêtements pour essayer de se réchauffer. Donc, ils les ont dénudés en laissant un minimum de dignité leurs sous-vêtements.
D'accord. Bon.
Donc, ces deux-là. Là, il y en a 3 d'entre eux, dont Igor Dyatlov, ont décidé de retourner vers le campement. Comme la neige n'arrivait pas, l'avalanche n'arrivait pas, Dyatlov et 2 autres personnes ont dit, on va essayer de remonter à la tente parce que c'est notre survie. Hein. C'est dans la tente que se trouvent nos vêtements chauds, que se trouvent nos vivres, il faut retourner à la tente. 4 d'entre eux n'ont pas voulu faire ça, probablement parce qu'ils craignaient que l'avalanche se produise. Et ces 4 personnes ont continué à marcher dans le boisé, ils sont tombés dans un ravin. Tu comprends, on est la nuit, on ne voit rien. Là. Les 4 sont tombés dans un ravin d'à peu près 5 mètres. Donc, les blessures, seuls les gens au fond du ravin avaient des blessures.
Ah.
Visiblement, les blessures ont été provoquées par leur chute dans le ravin, donc des bras cassés, des côtes fêlées, etc. Et ces corps-là, ont été recouverts de neige. Et si les 5 premiers corps ont été retrouvés assez rapidement, parce que bon, l'alerte a été donnée à la mi-février, et une semaine plus tard, on avait trouvé les 5 premiers corps qui étaient intacts. Mais les 4 derniers corps ont été retrouvés 2 mois plus tard à la fonte des neiges. Donc, les blessures, les bras cassés, les côtes fêlées étaient visiblement dues à la chute dans le ravin. Quant aux yeux manquants, à la langue arrachée, les experts sont convaincus que c'est de la prédation. Comme les neiges avaient commencé à fondre, ils ont probablement été, des animaux, des charognards, avaient commencé à s'attaquer au corps, ce qui explique pourquoi les yeux étaient manquants, la langue arrachée, etc. Ces blessures-là, les blessures de l'ossature, si je puis dire, des corps, les blessures internes dues à la chute dans le ravin, les blessures extérieur, probablement par la prédation des animaux. Mais c'est une hypothèse qui, à mon avis, résout absolument l'enquête.
Mais ceux qui sont remontés vers la tente, là, il nous reste juste 20 secondes, là, mais pourquoi ils n'ont pas survécu avec les vêtements qu'ils ont trouvés, non?
C'était pas suffisant. C'est amusant parce qu'ils sont morts, Ils sont morts vraiment en ligne, un derrière l'autre, à la file indienne, en remontant vers la tente. Le dernier était à peu près à 250 mètres de la tente.
Aïe, aïe, aïe. Christian, merci. À jeudi prochain.
Ça fait plaisir.
Demain, tout le monde.